Vous écoutez
RMC. Face à face.
Marie Chantrey.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour François Ruffin.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes député Picardie debout de la Somme à l'Assemblée nationale, candidat également à l'élection présidentielle. Dans le cadre d'une primaire, quelle primaire parle-t-on vraiment? On en parlera ensemble. Merci d'être là, oui, en ce 1er mai, fête du travail. Et une fois n'est pas coutume, François Ruffin, en ce face-à-face, j'ai un petit cadeau pour vous.
Ah,
un
merci.
Petit cadeau pour vous, des brins de muguet, comme c'est la tradition, quelques brins de muguet que je vous offre donc ce matin, que vous acceptez
avec plaisir,
même si je vous dis que ce matin je l'ai acheté ça chez un fleuriste.
Je me doute que c'est la question que vous alliez me poser.
Vous me trouvez si prévisible. Oui, je les ai achetés chez un fleuriste qui a pu ouvrir aujourd'hui et dont la patronne s'est dit particulièrement satisfaite de pouvoir vendre son muguet avec ses salariés. Est-ce que vous dites bravo?
Je dis, la société elle a besoin de rite, elle a besoin de tradition, et moi je suis partisan de tradition. Le 11 novembre et le 8 mai, on célèbre nos anciens combattants, ou on se repose le dimanche, ou le 1er mai, c'est un jour chômé et on manifeste pour le travail.
Mais vous dites quoi à cette fleuriste justement, qui disait, moi ce matin, en effet, je suis contente de pouvoir vendre mes brins de muguet et mes fleurs.
Si elle travaille, c'est son droit. En revanche, normalement, les salariés, eux, ne doivent pas travailler le 1er mai.
Mais sa salariée était volontaire, sa salariée est payée double. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit sur ce principe-là.
C'est ce qu'on a dit pour le travail du dimanche, et puis finalement, ça s'est normalisé. Mais vous savez, aujourd'hui, la grande question du travail, c'est pas ça. D'accord? Je suis pas d'accord avec cette évolution. Je pense qu'on a besoin de rites, on a besoin de traditions de notre pays. Mais vous avez eu, en une semaine, quatre mineurs qui sont morts, soit en apprentissage, soit en stage. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a quatre pères, quatre mères qui pleurent leur enfant.
Effectivement, des drames personnels terribles.
Et c'est 1000 morts par an en France. Nous sommes la médaille d'or en Europe pour le nombre d'accidents du travail. Mais c'est pas tout. Nous avons doublé, nous sommes au-delà des 100 000 personnes qui chaque année seront exclues du travail par inaptitude, c'est-à-dire broyées physiquement ou psychiquement. Vous avez une multiplication des burn-out dans notre pays. C'est une épidémie. Tous les épidémiologistes le reconnaissent.
En nous disant ça ce matin, juste François Ruffin, vous nous dites quoi? Que le travail le 1er mai autorisait certains commerces ouverts? C'est le petit bout de la lorgnette,
non,
c'est ça, c'est pas l'essentiel?
Tout à fait. Là, on doit se demander. Vous savez, le travail est le socle de notre société. Depuis 40 ans, ce travail est maltraité, il est méprisé, il est dévalorisé.
Mais quand 74% des Français se disent favorables à l'ouverture le 1er mai.
Je vous dis mon opposition, mais je vous demande, Madame Chantrey, de prendre. On est le jour de la fête des travailleurs.
Absolument.
On est le jour du droit du travail. Je vous demande ce jour-là de prendre en considération que le travail dans notre pays va très mal. Mais du coup, ce ne sont pas seulement les travailleurs eux-mêmes qui vont mal. Où on a un taux de stress au travail qui est quatre fois supérieur à nos voisins allemands. Des burn-out en série. Mais du coup, c'est en vérité tous nos services qui vont mal. Ça va mal dans les usines, ça va mal à l'hôpital, ça va mal dans l'éducation nationale. Et donc, je viens dire, moi, et que fait le gouvernement? Il vient supprimer des sécurités pour les travailleurs, pour les salariés. Il a supprimé le comité d'hygiène et de sécurité sur les conditions de travail.
Et ça, vous le dénoncez?
Bien sûr, je dénonce ça avec force, parce que le travail est le socle de notre société.
Mais quand des apprentis, et encore une fois, vous avez raison de le souligner, décèdent, ce sont des drames personnels, ce sont des drames indignes. Ça, on est bien d'accord sur ce point, mais est-ce que le gouvernement peut être pointé du doigt?
Oui.
Il ne peut pas être responsable
de
tout.
Oui, c'est un choix qui est fait par nos dirigeants politiques et économiques depuis 40 ans maintenant, et qui s'est accru sous Emmanuel Macron, de considérer le travail comme une variable d'ajustement et d'en supprimer les sécurités. Voilà. Et ne serait-ce que ça. Vous savez, je vous dis, épidémie de burn-out. Partout. J'étais avec des femmes de ménage à Vesoul. Non seulement elles ont mal au bras, elles ont mal au dos, mais en plus, du jour au lendemain, on leur dit, vous irez travailler à Besançon, une heure de route à l'aller, une heure de route au retour. Qu'est-ce que ça
fait?
Imposé. Ouais. Ça leur fait péter un câble.
Ce qui nous, vous fait dire, François Ruffin, que pour...
Elles disent, nous, on est là depuis 11 ans, on est là depuis 18 ans, ça les fait craquer. C'est comme ça. Maintenant, il y a plein de gens en burn-out. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce qu'on laisse faire? C'est ce que fait le gouvernement. Ou est-ce qu'on dit, comme je le dis, broyeur-payeur? Vous savez, Gabriel Attal avait dit, à propos des carreaux, tu casses...
Tu répares.
Tu payes. Eh ben, pourquoi ce qui est vrai pour un carreau l'est pas pour l'humain? On a des entreprises aujourd'hui qui produisent du burn-out en série.
Juste précise.
Tu casses de l'humain, tu répares l'humain et tu payes pour l'humain.
Tu répares en notamment les payant mieux. C'est un des axes de votre campagne pour la présidentielle. On en reparlera avec vos propositions que vous faites. D'ailleurs, vous parlez de Gabriel Attal. Il le dit d'ailleurs dans Le Figaro. Il présente ses propositions économiques avec cette formule, le droit au travail, mais finalement le faciliter, c'est-à-dire que oui au droit du travail, mais le faciliter, oui, dans ses règles et dans ses normes. Est-ce que vous pensez là-dessus que ça va dans le bon sens?
Il a un air jeune, Gabriel Attal, mais en vérité, il vient raconter ce qu'il raconte depuis 40 ans, ce qu'ont raconté Thatcher et Reagan dans les années 80, ce qu'on a mis en œuvre depuis. Est-ce que Emmanuel Macron a fait quand il était au ministère de l'économie, c'était les lois de travail, ce qu'il a fait encore quand il était président de la
Vos
République?
Vos propositions, non, c'est un donc, SMIC. En fait,
mes propositions, c'est une rupture avec ça. C'est
et
une
un
rupture.
SMIC à 1700 euros net,
notamment.
C'est
une rupture avec le considérer que le travail soit un coût. Le travail est pour notre société un atout, ce n'est pas un coût. Donc il faut cesser de le mépriser, cesser de le dévaloriser. Et donc, en effet, il faut... vous savez, le SMIC en France, c'est le pays d'Europe où il a le moins augmenté ces 10 dernières années.
Il va être valorisé normalement au mois de juin, si l'inflation se confirme,
Il va suivre l'inflation.
Bon. C'est pas suffisant.
Vous savez, la semaine dernière, j'étais à Poitiers avec des soignantes en EHPAD. Elles touchent 1700 euros alors qu'elles s'occupent des personnes âgées, elles s'efforcent de leur donner de la tendresse, même si l'ascenseur est en panne, elles courent dans les escaliers et à la fin, c'est 1700 euros. Qu'est-ce qu'elles racontent? On prend des marques éco au supermarché, bien sûr, on n'ira pas aux vacances, on fera pas de resto, pas de McDo, mais elles se sont habituées à sauter des repas. Mmh. Elles ne prennent plus le petit déjeuner. Donc aujourd'hui, vivre avec le SMIC dans le pays, essayez.
Et que le travail paye mieux, même si vous, en imposant possiblement un SMIC à 1700 euros net, certaines petites entreprises, certains petits patrons ne pourront pas se le permettre. C'est ça aussi peut-être une forme de double peine.
La double peine aujourd'hui, et je l'entends très bien, mais c'est qu'on a des petites entreprises qui payent plus d'impôts que les grosses, qui reçoivent moins d'aides que les grosses, alors que ces 10 dernières années, elles ont créé près de 300 000 emplois. Et vous avez des grosses entreprises qui payent moins d'impôts, qui reçoivent plus d'aides et qui, ces dernières années, ont supprimé 300 000 emplois.
François Ruffin, parlons des grosses entreprises, parce que le temps file et j'ai vraiment envie de vous interroger sur de nombreux sujets. Des grosses entreprises, c'est Total Energy. Total Energy, cette semaine, qui a dévoilé ses résultats. Ce mercredi, le géant français des hydrocarbures a publié un bénéfice net de près de 6 milliards de dollars, soit environ 5 milliards d'euros, en hausse de 51% sur un an. Est-ce que vous dites, comme le premier secrétaire du Parti Socialiste, qu'il y a une forme d'indécence dans ces chiffres?
Vous savez, 5 milliards d'euros, c'est ce qu'a reçu l'État quand on a privatisé cette entreprise-là, Elf Aquitaine Total. Et donc, en un trimestre, ils font le bénéfice de ce qu'on a retiré de la vente de ça, ce qui était un joyau pour l'État français. Donc, évidemment, c'est indécent. Mais surtout, à quoi ça sert? Ils sont très fiers d'en dire dans leur communiqué, voilà, nous sommes l'entreprise pétrolière qui va le plus augmenter ses dividendes pour les actionnaires. Et ils ajoutent, cette année, il y aura 1,5 milliard d'euros de rachats d'actions. C'est pas cette année, c'est ce trimestre. Qu'est-ce que c'est que les rachats d'actions? C'est utiliser l'argent pour supprimer du capital, pour faire monter l'action. Donc, c'est-à-dire que ces 6 milliards d'euros-là, ils pourraient être utilisés, pour sortir des énergies fossiles, pour investir pour l'avenir.
C'est ce que lui demande en partie le gouvernement. Si je vous écoute, Sébastien Lecornu a dit, il faut que ces super profits soient redistribués d'une manière ou d'une autre. Forme d'injonction.
C'est ce que demande. Vous savez, on a passé des années à avoir Bruno Le Maire demande. Là, il s'agit d'agir.
Là, c'est Sébastien Lecornu qui demande. Vous n'y croyez pas une seconde?
Je n'y crois pas. Vous savez, ce que ça dit tout ça, il y a une phrase dans Les Échos, le journal de mon ami Bernard Arnault, qui disait le dividende des rois. Voilà qui règne aujourd'hui sur le pays. En vérité, on a un travail, on a une société qui est organisée à destination des financiers.
Vous voterez donc la proposition de loi déposée par vos collègues socialistes, encore une fois, pour viser ces super profits? Ça va dans le bon sens, selon vous?
Je la voterai sans difficulté. Maintenant, il y a d'autres choses à faire. En matière d'énergie, et même sur tout le reste, parce que l'inflation, ça va pas rester là, ça va aller sur l'alimentation. Il y a quelque chose qui a existé pendant des décennies, qui a fait notre prospérité, ça s'appelle le contrôle des prix et des marges. Ça existait jusque 1986. Ça a marché. Il y avait des inspecteurs qui allaient vérifier qu'il n'y avait pas trop de profits qui étaient faits à la fois sur le pain ou sur l'essence.
Ça a été mis en place par le gouvernement. Il y a eu des contrôles faits dans certaines stations-service.
Non, il y a eu de vagues contrôles qui ont été faits, mais ce n'est pas un contrôle organisé dans la durée des prix et des marges et sur tous les produits qui sont aujourd'hui.
Mais est-ce que vous pouvez dire que Total aujourd'hui est un fleuron de notre industrie française? Quand vous entendez certains responsables politiques dire arrêtons le Total bashing, ça suffit, ça reste aussi une entreprise française dont on doit être fier, c'est une forme de réalité aussi qui fait prospérer la France à l'international.
Je serais fier si cette entreprise-là, elle servait à la fois les salariés, mais aussi par exemple, vous allez dans une pompe à essence, il y a marqué Total partout, il y a Total sur la veste, il y a Total sur la pompe, il y a Total tout ça. Vous interrogez la personne qui fait le service. Elle n'est pas Total. Elle est franchisée. On la paye 1 300 € en dessous du SMIC parce qu'on lui demande de faire un temps partiel. Donc, quand on fait des bénéfices aussi gigantesques que ça, on a du respect. On a du respect pour la nature aussi. On a du respect pour l'avenir et on investit. Vous savez, Éric Lombard, ministre de l'économie, qui est ancien ministre de l'économie, qui était un banquier, disait, quand j'ai commencé comme banquier, le taux de rentabilité exigé des actionnaires, c'était 7 à 8%. Maintenant, c'est 15%. Résultat, on peut pas donner en salaire. Résultat, on peut pas investir pour l'avenir et en particulier sur la transition écologique.
Juste sur ces actionnaires, une courte parenthèse, 650 000 chez Total, sur la peut-être la caricature qui est faite de l'actionnaire, il y a des milliers de tout petits actionnaires, des
c'est
particuliers.
Absolument faux. C'est absolument faux, Madame Chantré.
J'entendais des témoignages des particuliers fonctionnaires qui ont pu investir quelques centaines d'euros. Certes, ils retrouvent des dividendes, mais encore une fois, on n'a pas peut-être à les pointer du doigt. Les jeux du marché.
96% des dividendes vont pour le pourcent qui est le plus élevé, pour le pourcent du haut. Voilà. Quand on participe à des assemblées générales d'actionnaires, et ça m'arrive, les votes, ils sont à 98-99% et ils sont concentrés. En vérité, le capital est hyper concentré aujourd'hui entre quelques
François
mains.
Ruffin, les perspectives restent sombres. Le cours du baril du Brent, selon certains experts, pourrait exploser, attendre les $150 si le détroit d'Ormuz restait bloqué. Des Français, selon un sondage ELAB, qui disent s'attendent à ce que le président américain frappe de nouveau. Concernant la guerre au Moyen-Orient, l'inquiétude est à 87% chez nos compatriotes. Et puis des chiffres, une inflation à plus de 2%. Vous pensez qu'une colère sociale, ou vous la souhaitez d'ailleurs, s'exprime dans la rue? Une manifestation doit avoir lieu demain. Est-ce que vous sentez ça?
Je souhaite que les personnes passent d'une colère froide à un espoir chaud.
L'espoir chaud s'exprime comment?
Mais là, on est plutôt dans des temps de résignation, d'abattement. Donc je souhaiterais qu'on sorte de ça. Mais au-delà de ça, ce qu'on doit venir dire, nous, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir une protection. Évidemment, d'avoir une protection militaire pour qu'on ne soit pas, on n'ait pas de danger, mais aussi d'avoir une protection sur le travail des gens, une protection sur les prix, une protection sur leur salaire.
Mais vous êtes inquiet, comme la majorité des Français. Un sénateur socialiste disait... Notre pays est au bord d'une nouvelle explosion sociale. Le mouvement des Gilets jaunes est né dans une station-service. C'était il y a 48 heures. Voilà ce qu'il déclarait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Est-ce que vous sentez... Vous êtes dans des meetings, vous étiez à Lyon, vous êtes au contact de la population. Est-ce que vous sentez cette colère monter?
Il y a une colère qui monte, mais c'est une colère froide. Mais moi, je viens dire, Madame Chantré, nous, il y a des solutions qui existent si jamais on veut le faire. Si on veut pas laisser faire le marché, la crise Covid, la guerre en Ukraine a fait que l'inflation est venue arracher du pouvoir d'achat aux gens. C'est pas une fatalité. Vous remettez l'indexation des salaires sur l'inflation, qui a existé jusqu'en 1983, qui a été très utile pendant les 30 glorieuses. Vous remettez ça, les Français, c'est pas eux qui payent le fait qu'il y ait de l'inflation. Ça grimpe avec l'inflation. Et je vous le redis, ça a existé pendant des décennies où on a eu de la prospérité. Donc maintenant, il y a un choix, en fait, le grand choix pour 2027, pour moi, il est celui-là. Est-ce qu'on laisse faire le marché, ou bien est-ce qu'il y a des secteurs où il n'y a pas de marché, nos enfants sur les crèches, nos personnes âgées sur les EHPAD, et il y a des secteurs où le marché il est régulé, le logement, sur l'énergie, sur les questions qui sont essentielles pour les Français.
Et ce seront les thématiques principales de votre campagne.
Et on a pour l'instant des dirigeants qui décident de laisser faire le marché. Ça produit une très grande instabilité.
À ce moment de l'interview, j'aimerais revenir sur des propos que vous avez tenus cette semaine, François Ruffin, qui ont suscité un tollé chez vos ex-amis de la France Insoumise. À l'occasion évidemment des propos du président de la République sur ces travailleurs étrangers, il parlait de médecins notamment venant de hors de l'Union Européenne. Vous avez pointé du doigt les dangers d'un recours excessif à une main-d'œuvre étrangère. La France, dites-vous, ne doit pas faire appel à des médecins algériens, tunisiens, roumains, elle doit avoir ses médecins. Et la France insoumise d'embrayer, je le cite, Ruffin troque le rouge pour le brun en divisant les travailleurs. Le souverainisme, le chauvinisme mène fatalement à une politique xénophobe digne du RN. Voilà comment on parle de vous chez vos ex-amis.
D'abord, je veux remercier les médecins roumains, les médecins tunisiens, les médecins algériens, qui font le travail de soins au plus près des Français et souvent dans nos campagnes, dans les endroits les plus reculés. Donc, merci à vous. Maintenant, est-ce que je considère comme normal que la France ne forme pas ses propres médecins, que la France aille quelque part piller des talents sur lesquels des gouvernements à l'étranger ont investi temps et argent? Non, je trouve pas ça normal. Je souhaite que tous les gens qui sont dans notre pays, qu'ils aient des papiers ou qu'ils aient pas de papiers, puissent être accueillis comme il faut, qu'ils puissent être accueillis comme il faut sur, évidemment, le logement, sur la langue, sur l'école pour leurs enfants.
Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Et sur le travail. Aujourd'hui, c'est complètement désordonné, c'est complètement désorganisé. Donc je dis que je veux l'accueil plein et entier pour les personnes qui se trouvent sur le territoire français.
Mais non à une immigration excessive pour le travail.
En revanche, je refuse le plan d'importation massive de main-d'œuvre étrangère sur les services que programme par exemple le MEDEF, puisqu'il dit voilà, il nous faut plus de 5 millions de travailleurs étrangers et là-dessus, il y en aura 1,5 million naturellement, il en faut 3 millions.
Vous dites quoi, François Ruffin, la gauche sur ce point-là a été quoi, trop naïf ces dernières années? Parce que vous comprenez que ça puisse, chez vos amis des insoumis, heurter ou en tout cas surprendre.
Mais je le dis parce que vous savez mon attachement au métier de service, auxiliaire de vie, femme de ménage, et je vois bien comment le patronat des EHPAD, ils réclament de la main d'œuvre subsaharienne pour venir sur ces métiers-là. Je dis non, construisons pour ces métiers-là statut et revenu. Mais en fait, je m'inscris dans une grande tradition. Vous savez, Madame Chantré, qui disait ce que nous voulons pas, c'est que le capital international aille chercher la main-d'œuvre sur les marchés où elle est la plus avide, humiliée, dépréciée, pour la jeter sans contrôle et sans réglementation sur le marché français. C'est Jean Jaurès.
Un grand homme de gauche, oui.
Qui disait, nous ne pouvons admettre une immigration qui viendrait aggraver la crise du travail. C'est Léon Blum. Qui disait, là c'est beaucoup plus récent, nous disons, honte à ceux qui organisent l'immigration par les traités de libre-échange et qui l'utilisent pour faire pression sur les salaires et les acquis sociaux.
Un certain Jean-Luc Mélenchon?
C'était Jean-Luc Mélenchon en 2018. Donc je m'inscris dans une tradition qui estime que tout le monde a sa place, tous ceux qui sont sur le territoire français ont leur place, doivent pouvoir travailler à la fois pour eux-mêmes et pour produire pour notre pays, mais qu'on ne doit pas aller chercher les talents à l'étranger pour les utiliser chez nous.
Et le fait que de votre circonscription, à la dernière élection, vous ayez été élu face à une candidate RN à très peu de voix, finalement ça s'est joué à rien, n'explique pas aussi, je ne parle pas de changement de pied, c'est sans doute très cohérent avec ce que vous avez déjà dit, mais
vous
avec
savez,
quelque chose qui va peut-être à l'encontre de ce que disent...
Ça n'a rien à voir avec ça, Madame Chantré. C'est une conviction.
Qu'est le RN dans le pays
J'ai eu, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai eu 20 ans avant d'entrer en politique. J'ai eu 20 ans pour mûrir ma pensée. J'ai eu 20 ans pour faire des reportages. J'ai eu 20 ans pour circuler avec des camionneurs et voir les dégâts du cabotage fait par les camionneurs des pays de l'Est. J'ai eu 20 ans pour voir les travailleurs détachés dans le bâtiment. J'ai eu 20 ans pour assister à tout ça. J'ai eu 20 ans pour écrire des livres et me forger une pensée que je n'improvise pas du jour au lendemain ou en fonction des circonstances électorales.
20 ans qui, pour ces dernières secondes d'interview, vous amèneront donc à une candidature pour la présidentielle de 2027.
Je suis candidat à l'élection présidentielle parce que j'estime nécessaire qu'il n'y ait pas de présidentielle sans les essentiels, qu'elle soit représentée.
Primaire ou pas primaire, vous irez quand même.
S'il y a une primaire, j'en serai, je la souhaite, je la réclame de tous mes voeux. Maintenant, j'y vais. Nous avons recueilli 100 000 signatures en 15 jours au début de l'année sur nous, président. Et nous avons rassemblé plus de 2500 personnes à Lyon la semaine dernière. Et nous lui dirons, maintenant, vers les 500 maires.
François Ruffin, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Et très bon 1er mai. Vous allez donc défiler dans les cortèges parisiens. On vous verra cet après-midi sur l'antenne de BFM TV. Merci à vous.
Merci à vous.
Il est 8h47 et vous êtes sur BFM et RMC.